Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient. Isabelle Dillmann, journaliste grand reporter, auteur du livre d'entretien avec le patriarche cardinal Béchara Boutros-Rahi. Isabelle Dillmann, journaliste grand reporter, auteur du livre d'entretien avec le patriarche cardinal Béchara Boutros-Rahi, intitulé Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient aux éditions Albin Michel, nous parle de l'engagement du patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Nous vous proposons d'entendre la seconde et dernière partie de cette conférence enregistrée à l'abbaye de Belloc le 30 septembre 2017. Isabelle Dillmann.
Alors, ce Liban souffre d'abord de par son histoire, parce qu'il faut vous souvenir qu'en 1948, les relations, vous savez, entre Israël et le Liban sont extrêmement glacées. Depuis 1964, un Libanais ne peut pas se rendre en Israël du Liban. Ça, c'est toute la Ligue du monde arabe qui s'est opposée à l'expulsion des Palestiniens manu militari en 1948. Mais malheureusement, les accords de Taif ont permis aux Palestiniens de s'armer dans leur camp. Pas les accords de Taif, les accords du Caire ont permis aux Palestiniens de s'armer dans leur camp. Et les Libanais se sont vus en tant qu'hôtes accueillir des réfugiés palestiniens forcément à bras ouverts et en même temps qui se sont armés. Donc là aussi, ça a été, vous connaissez les Sabra et Shatila, les monstruosités, etc., perpétrées maintenant, on le sait beaucoup, sous l'œil cynique des armées israéliennes. Donc les Israéliens occupent encore le sud Liban. Il y a maintenant dans le 1,5 million de réfugiés pour un pays qui fait 4,5 millions d'habitants. Il y a évidemment l'infiltration des djihadistes car les frontières sont poreuses. Donc le Liban est en grande instabilité, c'est-à-dire qu'il est vraiment il est la caisse de résonance des conflits régionaux et pas que régionaux, parce que les Occidentaux aussi ont une grande part de responsabilité. C'est un pays fragile qui continue, il semblerait, à se maintenir, mais qui est très fragile. Donc vous comprenez bien, je ne sais pas si vous réalisez que pour 4,5 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés, que j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu dans des camps de plastique, ça donne envie de pleurer, bien évidemment, vous voyez des enfants dans les champs ramasser des pommes de terre, ils sont partout, dans tous les carrefours à Beyrouth, je veux dire, et ils sont en majorité sunnite. Donc ça pose un énorme problème, bien évidemment, parce que le Liban s'accroche à son tiers de chrétiens. Parce que pourquoi ? Parce que c'est la pluralité. Parce qu'ils ont toujours vécu avec les musulmans, j'entends les musulmans modérés, bien évidemment, je ne parle pas de l'islamisme radical. Et voyez, en poste privilégié, je parlais tout à l'heure de cette responsabilité, le patriarche a accepté, pas tout de suite, au bout de plusieurs mois quand même, de ténacité, de patience, parfois de relance, mais quand il a dit oui, il a dit un oui très ouvert à ma présence. Ce qui fait que j'ai pu vivre dans les deux patriarcats aux côtés du patriarche, qu'aucune femme, moi je ne suis pas une religieuse, je ne fais pas partie d'une église, en plus je ne suis pas quelqu'un qui compose tellement, je sais pourquoi je suis quelque part et j'assume absolument la mission que j'entends être la mienne. J'ai eu la chambre la plus proche des appartements privés du patriarche dans son très beau patriarcat de Diman en Vallée-Sainte et également son autre patriarcat, le siège patriarcat, de patriarcal à Kerké. Donc ça m'a donné quoi comme possibilité ? Évidemment, j'avais ce livre. Il y avait comme objectif ce livre d'entretien qui est là. J'espère que ça vous fera plaisir de le lire et je serai heureuse de vous le dédicacer parce que c'est vraiment un livre testamentaire. Le patriarche n'a jamais, c'est un homme qui a fêté, il est né en 39, donc il a fêté ses 78 ans en mars dernier, oui c'est ça. Donc jamais une femme n'était rentrée à ce point dans un patriarcat. Seule femme d'ailleurs, en permanence avec beaucoup d'hommes, très sympathiques, parce que ces communautés-là sont assez jeunes en plus. Et là, on est en Orient où on comprend que le tissu social et religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille qui n'ait pas son prêtre, alors selon qu'il est melkite, arménien, copte, etc. Mais ça, on sent que le tissu est profondément noyauté de chrétienté, ça n'étonne personne. Et je vous le raconterai mieux encore quand je vous raconterai un peu la genèse du patriarche. Mais je voudrais rester sur cette idée que de ce poste privilégié, bien évidemment, il y avait ma première mission, essayer d'obtenir une heure d'entretien avec le patriarche quotidienne. Je peux vous dire que ce n'était pas évident et que la seule façon de pouvoir croiser son regard le matin, c'était d'aller aux premiers offices, ce qui me faisait lever très tôt, mais je le faisais bien volontiers parce que, comme je vous l'ai dit, la liturgie araméenne, syriaque, maronite est sublime. Mais enfin, bon, tous les matins, c'est quand même parfois un petit effort. Puis le petit déjeuner, et là, le patriarche m'avait placé dans son angle de vision, et donc je le regardais, et à son regard, je savais s'il m'accorderait mon heure quotidienne d'entretien. Et c'était important parce qu'un livre, c'est un très, très gros travail, je voulais vous le dire. Et vous ne pouvez pas, j'ai rencontré quand même, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous en ai cité des noms, mais un prélat catholique de ce niveau-là. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, et c'est bien normal, je l'ai appris aussi et je suis contente de vous transmettre tout ça, dans le fond je suis exactement comme vous quand je démarre un sujet, c'est que très rapidement le patriarche, après avoir été nommé patriarche, a été élevé au collège des cardinaux par Benoît XVI, et ensuite il a été intégré au Vatican à l'ordre des cardinaux-évêques. Est-ce que vous savez ce que ça représente ? Il y a 9 cardinaux évêques, 6 cardinaux, je dirais, catholiques classiques, et 3 patriarches. Le patriarche émérite, le patriarche Sfer, libanais, le patriarche copte catholique émérite, il n'est plus en fonction, et le patriarche Rai. Et de ces 9 évêques cardinaux, le patriarche Rai est le seul à ne pas avoir 80 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 77 ou 78. Donc si demain le pape François, et je ne le souhaite pas, venait à disparaître ou à démissionner, c'est le patriarche Rai qui présiderait le conclave. C'est vous dire qui on a en face de soi. Il est surnommé le pape oriental et la figure majeure des chrétiens d'Orient, parce qu'en plus, il a cette grande responsabilité, cette présidence de rassembler tous les patriarches, et ce n'est pas non plus toujours chose facile. Donc, si vous voulez, quand j'obtenais mon heure, qui n'était pas toujours quotidienne, mais je passais quand même toute ma journée, les déjeuners, les dîners, je l'accompagnais beaucoup dans ses visites pastorales, et ça a été absolument passionnant. Il faut savoir qu'il y a quand même une escorte de 28 militaires auprès du patriarche, que nous allions sur des routes qui n'étaient pas forcément toutes sécurisées, qu'à peine j'étais rentrée en France avec difficulté car tout le monde voulait me garder, notamment le patriarche. Mais il y a un moment, quand vous avez récolté, il faut vous isoler, il faut rentrer dans un autre type de travail qui ne peut être que très solitaire. Eh bien, il y a eu des raptes d'évêques. Donc, je l'ai accompagné et je l'ai accompagné sur le terrain de différentes régions libanaises. Et ce que j'ai observé, et c'est la vérité, et c'est dans leur tradition, les patriarches sont et autant les patriarches des chrétiens que des musulmans. L'accueil que les chiites, les druzes, quelques alaouites, les sunnites ont réservé aux patriarches, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Je voyais, je l'accompagnais, c'était presque des bousculades, etc. Il représente énormément parce qu'il est l'espoir, si vous voulez, dans la mesure où les patriarches ont toujours été, de par leur rôle temporel qu'ils continuent quand même d'une manière induite à mener, ils ont toujours été les garants de la constitution nationale. Voyez comme le Liban est constitué vraiment différemment d'un pays comme le nôtre. Et voyez comme tout ça est imprégné dans le fond d'une certaine hauteur. Parce que moi, j'ai vu des femmes chiites prendre leurs enfants et dire au patriarche, bénissez mon enfant. Je le raconte d'ailleurs dans ma préface, parce que ce sont des mouvements très émouvants. J'ai vu devant moi les moutons égorgés, il fallait marcher dans le sang. Bon, le patriarche fait ça avec beaucoup d'élégance, moi je trouvais que c'était un peu dur, mais tous les hommages, si vous voulez, d'un autre monde. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez. C'est difficile pour nous, et en conclusion, c'est ce que je dirais, mais là, pour l'instant, je ne suis pas encore dans ma conclusion, mais comme j'ai rencontré beaucoup de musulmans, évidemment, puisque j'accompagnais le patriarche et qu'il y avait des grands dîners, j'étais parfois assise à côté d'un cheikh druze. Enfin, ils sont très beaux en plus. Vous savez un petit peu ce que sont les druzes, parce que les druzes, c'est difficile. En plus, il y a eu beaucoup, vous savez, il y a eu la grande guerre entre druzes et maronites sous Napoléon III en 1860, à tel point que Napoléon III a dû envoyer ses troupes. Donc, druzes et maronites se sont beaucoup battus. On a appelé ça les guerres de la montagne. Les maronites ont énormément souffert. Et puis, il y a eu, en 2000 seulement, grâce au patriarche Sfer, le prédécesseur du patriarche Rai, la paix de la montagne. Et ça a été quand même quelque chose de très important. Les druzes, ils sont à peu près 6% de la population libanaise. Et alors, ils sont issus d'une scission de l'ismaélisme. qui n'est pas très éloigné des Alaouites. Il relève d'une doctrine secrète. Vous savez, les Druzes aujourd'hui sont représentés par Walid Jumblatt. Et si vous avez la chance de pouvoir lire les poésies que Kamal Jumblatt, assassiné au début de la guerre civile, a écrit, je vous conseille de le faire. C'est magnifique. J'en connais quelques-unes par cœur, mais je ne peux pas aller dans trop de directions à la fois. Donc, c'est une doctrine ésotérique et secrète. Alors, il croit en l'immortalité de l'âme, pas du tout à l'enfer, pas du tout au paradis, pas du tout au péché originel. Et donc, si vous voulez, leurs croyances, elles empruntent à beaucoup d'éléments, à la tradition coranique, à la gnose, à l'esprit néoplatonicien. Et en fait, ils sont évidemment considérés comme des apostats par les musulmans, les druzes. Donc, ce n'est pas facile pour les druzes. Il n'y a rien d'écrit. Aucun manuscrit ne circule pour que la doctrine ésotérique secrète soit maintenue secrète. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Puis les Alaouites, vous le savez, hein, ils tiennent à Ali, au successeur du prophète. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de comprendre en rencontrant ces musulmans et ces chrétiens, j'ai demandé aux chrétiens, mais c'est quoi votre avantage de vivre avec des musulmans ? Qu'est-ce que c'est que ce plus ? Parce qu'il faut aussi pouvoir poser ces questions. Expliquez-nous. Alors, la réponse des chrétiens, c'est de dire que les musulmans sont, je voudrais vous dire exactement ce qui m'a été dit, que pour les chrétiens, que pour les chrétiens, les musulmans sont le rempart inexpugnable contre le relativisme qu'ils jugent mortel en Occident. Et pour les musulmans, quel est votre intérêt de vivre avec des chrétiens ? Pour les musulmans. Eh bien, les musulmans disent que les chrétiens sont la porte ouverte à la raison critique. Et je trouve que c'est assez... À la raison critique. Et je trouve que c'est assez admirable parce qu'il ne faut pas oublier quand même que sous les califats des Omeyyades, des Abbassides, il y avait un islam éclairé. Hein. Et ça, je l'ai quelque part, mais c'est difficile de parler, de regarder. Mais les Ibn Arabi, les Avicennes, les Averroès, on les a peints, ils étaient là. Il y avait donc, si vous voulez, ces fameux errants de l'Andalousie musulmane, vous savez, qui écrivaient d'abord des poèmes merveilleux d'amour. Hein. À l'époque, les musulmans n'avaient pas peur de parler de l'amour merveilleux, pas du tout conforme à l'islam radical actuel. Et surtout, ce grand soufi Ibn Arabi voyait en Jésus son premier maître, pas l'unique, son premier maître. À tel point que ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet imam plus récemment, Imam Sadr, qui a été assassiné en Libye, qui est un personnage très connu, très très connu au Liban, qui était le seul chef religieux qui soit allé prêcher le carême chez les Capucins à l'ombre d'une énorme croix. Donc oui, il peut y avoir ce pacte de convivialité bien pensé, bien à un vrai niveau. Ça, je voudrais en témoigner. Alors, avec évidemment des limites, par exemple, j'ai quand même remarqué qu'il y a quand même aujourd'hui au Liban des régions chiites, des régions sunnites, des régions druzes, des régions alaouites, très proches de la Syrie, et que ce ne sont que dans les régions chrétiennes que la diversité est la plus grande. Donc là, on est quand même dans l'application des valeurs évangéliques. Hein. La dignité de la personne, la sacramentalité de la personne, les libertés de conscience également, les libertés des droits fondamentaux. Ça, le chrétien le vit sur le terrain. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Sachez aussi que pour les Libanais, et ça a été d'ailleurs Rafik Hariri avant son assassinat le 14 février 2005, qui a donné son accord, Marie est vraiment alors vénérée autant par les musulmans que par les chrétiens. C'est la seule femme qui soit citée dans le Coran. Et il y a le jour de l'Annonciation, le 25 mars, une grande fête. Alors vous entendez ce jour-là à la fois les muezzines et les cloches en même temps. Et alors les chrétiens et les musulmans se réunissent. Et vraiment, c'est assez émouvant de voir comment ils peuvent, autour de Marie, chacun y va de ses prières et de ses échanges. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ce patriarche Rai, je vais vous en parler un tout petit peu plus. Mais avant, je voudrais vous dire une chose qu'on réalise peut-être moins. Tout à l'heure, on a donc parlé de la grande diversité des églises d'Orient. On a vu les risques qu'ont encouru ces églises en se divisant, en n'allant pas vers suffisamment d'unité, en se repliant sur des ergots de différence, justement. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que là, la présence chrétienne sur ces terres, c'est aussi la culture, voilà. Parce que les textes de penseurs grecs, hein, comme Aristote, Platon, Plotin, ils ont d'abord été traduits dans des monastères par les religieux chrétiens du monde arabe. Alors, traduits du grec vers le syriaque, puis l'arabe. Ça, c'est important. Les jésuites ont créé des universités, les dominicains, des écoles techniques. Les carmes des séminaires, vous voyez ? C'est ça aussi la culture chrétienne, c'est ce que d'ailleurs essayait toujours de me dire le patriarche Rai. Ce ne sont pas que des communautés d'église, c'est ce qui s'est vraiment inséminé dans le terrain vivant, vous voyez ? Et ces chrétiens, ils ont toujours été vecteurs de culture. Par exemple, je vous parlais de la Vallée Sainte, il y a un magnifique couvent, presque troglodyte, le couvent de Kosaya. Eh bien, dans ce couvent, écoutez, je ne veux pas faire d'erreur, en 1610, c'est ça exactement, les religieux chrétiens ont fait venir une imprimerie d'Allemagne et ils ont imprimé les premiers textes en caractère syrien, 2 siècles avant les conquêtes napoléoniennes. Ça ne vous dit rien, ça ? Comme vecteur de progrès, comme vecteur de connaissances. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je crois que c'était le pape Clément XIII qui a vraiment beaucoup, beaucoup poussé à la création d'un collège maronite à Rome, parce qu'il fallait que ces communautés, notamment la communauté maronite, qui avait un rôle à jouer dans l'émergence du Liban, et vous verrez comment elle l'a joué après, en 1919, je vais vous en parler, il fallait reconstruire, et il fallait reconstruire en devenant des vecteurs de progrès. Ça a été les premières, ce qu'on appelle la Nada, les premières renaissances arabes, c'est-à-dire là où vraiment les intellectuels, toutes confessions confondues, tenter, si vous voulez, de redonner un nouveau souffle à leur culture et à leur civilisation. Ça, c'est très, tout en gardant chez les chrétiens leurs valeurs évangéliques qu'on connaît, hein, sacralité de la vie humaine, dignité de la personne et les libertés. D'ailleurs, je lisais un entretien de Jean-Luc Marion, je l'ai découvert en le lisant, qui dit que, bien sûr, les Lumières ont repris la trilogie « Liberté, égalité, fraternité », mais c'est Fénelon qui en est à l'origine, et Fénelon était chrétien. Donc c'est un peu dommage que dans nos racines chrétiennes de l'Europe, on ait vraiment omis de signaler les racines judéo-chrétiennes. Nos racines, c'est la Bible et les Grecs. Il n'y a ni à en rougir, ni à en s'engloser. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, vous voyez, les racines chrétiennes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gréco-romaine, juive et chrétienne. Alors, en parlant des patriarches et du rôle qu'ils ont joué, extrêmement important, et ils ont parfois au prix de leur vie, mais parfois aussi en faisant des sommes absolument incroyables qui sont dans les archives du Vatican, tellement elles sont érudites. Il y avait les intellectuels au XVIIe siècle, les intellectuels maronites formés au collège maronite qui venaient à la Sorbonne et qui venaient enseigner. Ça, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Vous voyez, c'est pour vous donner l'importance de cette église et de sa vitalité. Eh bien, en 1919, là, on est encore à l'époque du démembrement de l'Empire ottoman, quand les Anglais et les Français vont donc se répartir les débris de cet empire ottoman, ils vont, juste au moment du traité de Versailles, eh bien c'est le patriarche Ohayek qui va mener la délégation, chef temporel, chef spirituel, chef juridique. Et là, il va se retrouver en face de 2 personnages que vous connaissez, il va se retrouver en face de Clémenceau et Poincaré. Et Clémenceau, si vous lisez ses pensées, j'avais fait un jour un entretien pour un de mes précédents livres, Les politiques anti-lunames, j'avais rencontré Manuel Valls avant qu'il ne soit Premier ministre, et c'est un fou de Clémenceau. Et je lui avais dit, mais savez-vous que dans ses pensées, Clémenceau a dit, j'aurais aimé, dit-il, avoir une goutte de François d'Assise. Donc voilà notre patriarche Ohayek qui se retrouve face à Clémenceau, et Clémenceau, dur comme fer, lui dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas, vous, chrétiens, vous contenter du Mont Liban. Le Mont Liban, c'est vraiment la petite portion congrue qu'ils ont défendue pendant des siècles au prix de leur vie, de leur sang, de leurs larmes, de leur communauté, de leur foi, etc. Et Clémenceau a dit, mais vous plaisantez. Nous, l'intérêt des chrétiens, c'est de vivre avec les autres. Et Clémenceau s'est incliné. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas plus beau, belle parole. Et c'est comme ça que les frontières du Grand Liban sont devenues, général Gouraud a inauguré ça en 1920, les frontières actuelles, les frontières du Grand Liban. Ça vous donne une idée de l'importance et de la relation que la société libanaise a vis-à-vis d'un patriarche. De l'extérieur, on se dit, mais c'est incroyable, ils sont traités comme des dieux vivants, etc. Mais voilà. Alors, quand j'avais la chance d'avoir mon heure quotidienne, eh bien, il a fallu un peu de temps quand même. Mais peut-être que dans les questions, je sais qu'il va y avoir un tempo de questions, peut-être que ça vous intéressera, que je vous parle un peu plus de ça, donc on laisse peut-être ça. Mais je vais vous parler maintenant du patriarche Rai. Mais comment se fait-il que ce petit cadet d'une famille de 8 enfants, natif d'un village d'Himalaya, que je suis allée voir, d'une maman, joli prénom de Taminé, qui signifie la précieuse, d'un père qui s'appelait Hussein, qui n'avait... petit dernier de 8 enfants, une famille qui n'avait même pas de voiture, sans aucun moyen, vivant dans la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une mère très chrétienne, une famille très chrétienne, comme je vous l'ai expliqué, ce tissu qui imprègne vraiment la société libanaise, et un jeune garçon qui d'ailleurs se moque, ses camarades se moquaient de lui parce qu'il avait une mine à crayon et il disait, mais vous savez, c'est pas le crayon qui fait le talent. Il anticipait sur ce qu'il allait devenir. Eh bien, à 12 ans, il a choisi de rentrer au noviciat. Il avait deux oncles, dont un oncle Paul qui était déjà un moine et directeur de séminaire. Et il a choisi l'ordre de rentrer chez les moines dans l'ordre maronite libanais. Donc il a 12 ans, il part au séminaire et sans aucune difficulté. Et il suit son séminaire. Puis un soir, c'était beau, il m'a raconté ça. Vous verrez dans le livre, il y a les trois derniers chapitres qui recouvrent le parcours spirituel du patriarche. Et il était un peu étonné par certaines de mes questions, mais il y a quand même bien répondu. Et je crois que c'était important aussi d'aller un peu au-delà du convenu, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors, à 16 ans, il s'est dit, oh non, c'est pas pour moi, je n'ai plus du tout envie, j'ai envie de rentrer chez moi, faire comme mes frères, etc. Et entre-temps, donc, il y avait eu ce noviciat. Vous savez, quand on est chez les moines, il y a une formation théorique et puis il y a une ora et labora au sens propre, parce qu'ils sont dans les champs et ils travaillent la terre, ils déchirent leur soutane, ils ont les mains vraiment dans les pierres quand il faut reconstruire. Et d'ailleurs, il y a les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, parce que c'est ça que j'aime beaucoup en Orient, c'est que tout est très familial. Il n'y a pas les religieux d'un côté, la société civile de l'autre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, non. Tout ça, d'abord, il n'y aurait pas d'hommes sans femmes, et je pense que, je ne sais pas s'il y aurait de femmes sans hommes, mais tout ça est très, vraiment pour le coup, là, il y a une espèce de sensibilité qui est quand même très agréable. Donc, voilà, ses copains l'interpellaient, etc. Il travaillait, puis à 16 ans, au petit séminaire, il est allé voir son oncle un soir, il lui a dit, je vais repartir demain. Et il était à Beyrouth à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul bus pour Himalaya, c'était le lendemain matin. Et à mon avis, en bon directeur de conscience, qui était son oncle, il lui a dit, écoute, puisque le bus n'est que demain, laissons passer la nuit. Et je pense que l'oncle a dû beaucoup prier, parce que le lendemain, il n'y avait plus du tout trace d'une crise d'adolescence ou d'un retour sur peut-être une décision quand même importante, parce qu'il a fait un parcours assez extraordinaire. Il a ensuite été préempté par les jésuites de Jamour. Il est arrivé à 17 ans, vous imaginez, en classe de 5e. Il était bien plus grand que ses congénères, mais là aussi beaucoup de gentillesse. Et voilà quelqu'un qui a en même temps tout appris, qui a appris à parler 7 langues absolument couramment, qui a fait des travaux magnifiques sur Jacques Maritain, qui a été conquis par le Lourdes d'Émile Zola, qui a beaucoup lu les grands écrivains chrétiens, qui avait de très beaux échanges avec beaucoup de timidité, avec sa soutane déjà. Et donc, il a touché du doigt dans ces écoles de jésuites dont on parlait tout à l'heure. Sachez que dans les écoles religieuses au Liban, 90% des musulmans envoient leurs enfants dans les écoles religieuses chrétiennes. Donc, les meilleurs copains musulmans, ceux qui lèvent le doigt pour aller au catéchisme, ceux qui veulent aller au premier rang à la messe, il n'y avait que ça. Vous voyez, donc, je bois juste un tout petit peu... Il a gardé d'excellents amis musulmans. Et les fêtes sont d'ailleurs toujours réciproques. Ils sont invités les uns chez les autres. Ils restent tous très proches. Donc, il a été préempté par les jésuites de Jamour. Il est resté 5 ans. Et ensuite, comme vous le savez, quand on souhaite évidemment faire une vraie... quand on a une vraie vocation religieuse, il a été ensuite envoyé à Rome. Et là, il a fait un très beau cursus de théologie, de droit canonique. Vous savez pourquoi on dit le droit canonique, le droit canon? C'est quand même étonnant de mettre ce mot canon à côté du droit. Ça vous a jamais interpellé? Eh bien, parce que les Romains posaient un canon, un fût de canon. Il fallait être dans la droiture du canon. Donc voilà, le patriarche a fait de très belles études, et puis il est resté à Rome, directeur de Radio Vatican, de l'antenne de Radio Vatican arabe, et puis la guerre civile est arrivée en 1975, et là il n'a pas pu rester à Rome, la vie y était très douce, très agréable, je l'ai moi-même retrouvé au collège maronite de Rome, qui est sublime, les jardins donnent sur ceux de la Villa Médicis, on est vraiment au mieux, mais là il fallait qu'il rentre, et il a eu d'ailleurs, il a été très actif, à savoir que puisqu'il y avait cette fameuse ligne verte qui séparait l'Ouest de l'Est, et que à la façon dont vous répondiez, on pouvait savoir si vous étiez chrétien ou pas chrétien, et selon le checkpoint, vous y restiez carrément sur le bitume ou au contraire vous passiez, il a pensé que quand même beaucoup d'étudiants allaient être terriblement pénalisés, et il a créé la grande université de Notre-Dame de Louézé. Il a donc été aussi un très grand enseignant, etc. Vous voyez, c'est pour un peu vous parler de son parcours. C'est le parcours de quelqu'un qui s'est aussi à la fois fait lui-même et qui en même temps a eu des concours de circonstances et une acceptation surtout de sa destinée. Alors bon, on ne peut pas tout vous dire, mais si vous voulez, ce que je voudrais vous dire, c'est que la force spécifique du patriarche, c'est donc d'être celle d'un homme de foi ferme d'Orient, qui se réfère à la présence des chrétiens, à leur présence avec les musulmans et à la présence du Liban sur la scène internationale. Il se déplace beaucoup, le patriarche, puisque la diaspora maronite est à peu près il y a 10 millions à peu près de Libanais, dont 80% de maronites. Vous les trouvez tant en Australie qu'au Brésil qu'en Argentine, donc c'est très important. Voilà quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé au patriarcat, d'une certaine manière, a réveillé le patriarcat. D'abord, il a cessé d'en faire une hôtellerie. Il en a fait plus un esprit conventuel. Les messes, le matin, chacun faisait sa messe dans sa chambre. Je parle évidemment de ses vicaires généraux, de ses secrétaires particuliers, de ses prêtres qui l'entourent, et de beaucoup de ses évêques. Il a souhaité une messe commune le matin, il a souhaité que tout ce monde chante au coude à coude, ce qui fait de très très beaux cœurs d'hommes, évidemment. Il a voulu rapprocher les ordres séculiers des ordres réguliers, parce qu'il y a beaucoup de rivalité dans ces ordres-là, même s'il a été élu à l'unanimité, ce qui ne s'est jamais vu dans tout le parcours d'un patriarche. Et puis surtout, il a tenu beaucoup à respecter la constitution d'un patriarche, c'est-à-dire une visite pastorale absolument tous les 5 ans. Et ça revient vite, parce qu'il faut aller partout dans le monde. Et là, vraiment, il est extrêmement actif à ce niveau-là. Sachez que c'est un homme qui dort très peu, qui est sollicité, comme peut l'être franchement un chef d'État, énormément, énormément, et que c'est rare moment de détente. Moi, je les ai aperçus plutôt le soir, dans cette belle vallée sainte, en altitude, l'été, j'étais là l'été avec ces belles pleines lunes, alors on voit descendre des escaliers une ombre, parce qu'on ne reconnaît plus le patriarche, il n'est plus en robe ni en soutane, il est enfin en homme, il est en jogging, il a enlevé ses lunettes, il a mis une visière, il a les mains dans le dos, et on comprend qu'il a le chapelet dans le dos, et puis on voit un de ses gardes militaires qui se rapproche de lui, et sous la sécurité qui lui est assurée, et il va marcher pendant 45 minutes et sans doute beaucoup prier. Je lui ai demandé d'ailleurs dans le livre quelle était sa prière, ses prières, comment il priait, etc. Vous verrez, il y a des très très beaux passages. Et donc on comprend que cet homme est sous pression. C'est extrêmement difficile parce que il y a évidemment beaucoup de dissensions, malheureusement. On en revient aux dissensions premières des conciles, mais il y a aussi des dissensions au sein même des églises. Comme vous le savez, la foi est une chose et le pouvoir religieux en est une autre. Et évidemment, cet homme doit faire acte de diplomatie. C'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, un père. Il a une attitude plus paternelle que celle d'un chef. Ça lui est reproché parfois. C'est vrai que quand on est à la tête d'un patriarcat, patriarcat, il y a des sans doute, enfin moi je ne peux pas du tout me mettre à sa place. Alors un matin, je suis au petit déjeuner, une de ses sœurs est arrivée, une dame assez âgée avec ses propres enfants, et j'étais toujours très entourée, tout le monde était absolument charmant avec moi, puis surtout on prenait tous nos repas ensemble, donc il y avait des échanges formidables. Et ils sont montés ensuite sur la terrasse privée du patriarche qui domine toute la vallée sainte. Quand vous êtes sur sa terrasse privée, en altitude, vous avez la ville de Gibran Khalil, hein, Betchare, qui est devant vous. Vous savez, c'est ce grand écrivain qui a écrit Le Prophète, qui est le grand best-seller. Hein. Nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Moi, je suis allée voir ce musée Gibran, ça transcende tout culte, toute religion, si vous voulez. Et là, donc, sa sœur m'attendait, je me suis dit, oh, quelle chance, je vais pouvoir un peu lui poser des questions sur l'enfance du patriarche. Là, l'âme de la journaliste revenait de... Et effectivement, elle m'a raconté deux, trois histoires tellement comique que quand même j'ai eu un peu un doute. Et comme j'ai beaucoup ri avec elle, le patriarche nous avait un peu laissé, il est venu parce qu'il aime aussi beaucoup rire. Et puis deux jours plus tard, il m'a dit, Isabelle, dites-moi ce qu'elle vous a dit. Alors j'ai dit, elle m'a dit qu'un jour vous étiez revenu du séminaire et que vous aviez besoin de faire nettoyer votre soutane et que vous vous étiez promené en short et que votre papa vous avait été très très mécontent. Et alors il a recadré un peu toutes les histoires, comme quoi il faut faire quand même très attention, aller aux sources. Et puis sachez aussi que dans ce genre d'entretien, quand la confiance s'établit, ça devient de plus en plus délicat. Parce que des choses se disent, vous le sentez, vous ne pouvez pas les relayer. Parce que c'est très politique aussi le Liban, c'est très partagé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'un nom comme Samir Jaja vous dira bien ce que c'était, que le chef des milices chrétiennes du front libanais. Quand je vous parle de Michel Aoun, vous voyez, c'est le courant patriotique libre. Quand je vous parle de Walid Jumblat, c'est des démocrates sociaux. Tout ça est très politique. Un mot peut vous tuer. Et comme il parle beaucoup, parce que c'est la façon un peu de ferrailler et de mettre beaucoup de confusion, c'est très, 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 très délicat. Donc, de temps en temps, le patriarche, quand il s'était beaucoup confié, ça ne m'arrangeait pas du tout, mais me disait, vous mettrez ça dans votre cœur, ma chère, c'est off. Donc, bon, il y a quelques off que je garderai toujours dans mon cœur, effectivement. Et il y a eu des moments très émouvants, parce que quand même, cette élection à l'unanimité, pourquoi lui donner l'unanimité alors qu'avec les deux tiers, il passait parfaitement. Et je lui dis, mais pourquoi avez-vous choisi cette devise communion et amour? Alors, et au moment où il me racontait ça, et là, je vous le confie, parce que c'est bouleversant et que dans le fond, ça peut rejoindre toutes nos expériences à chacun d'entre nous, il s'est mis à pleurer. Ça, je peux vous dire que quand vous avez devant vous un patriarche qui se met à pleurer, c'est très émouvant quand même, parce que là, c'est plus, on n'est plus dans les apparences, on n'est plus dans le rôle, on n'est plus dans le statut, qui est quand même aussi un statut social, vous voyez. C'était un homme bouleversé comme un enfant. Bouleversé d'avoir été élu à l'unanimité. D'ailleurs, il a pris son mouchoir, il s'est essuyé et il a laissé tomber son mouchoir. Son mouchoir, je l'ai repris. C'est une petite... Voilà, c'est pour vous dire que voilà. Alors, son message, évidemment, plus sérieusement, c'est... Mais tout est important dans la vie, parce que si on n'a pas affaire à un être humain, si on ne touche pas à la dimension profonde d'un être humain, on n'a rien dans un entretien. Il y a là toujours la dimension du cœur, il y a la dimension de l'être. Et d'ailleurs, ça permet d'ailleurs, quand on peut parfois avoir quelques motifs ou de déception ou de surprise, parce qu'il peut y avoir des contradictions, les gens, il y a des paradoxes, ils n'échappent pas à cette règle, évidemment. Puis quand vous vivez vraiment aussi proche, vous voyez tout. Hein, on peut pas vous raconter d'histoire, vous touchez du doigt. Alors j'ai trouvé que c'était très généreux de sa part. Donc son message, à l'heure de la radicalisation de l'islam, est d'une importance capitale. Ce patriarche, c'est le pasteur des chrétiens d'Orient. Il l'a prouvé, je vous l'avais dit tout à l'heure, très courageusement, il s'est rendu deux fois en Syrie. Deux fois. Trois diocèses maronites. Pourquoi allez-vous vous incliner devant Bachar al-Assad? Il a dit, mais j'ai rien à voir avec Bachar al-Assad. J'ai mes communautés maronites. C'est le chef d'État de Syrie. J'y vais. Vous pensez bien que ça n'a pas plu. Autre chose, quand le pape s'est rendu en Terre Sainte, c'était 2014, hein, eh bien, évidemment qu'il a invité le pape, le patriarche Béchar Lavaille, et le patriarche s'est rendu en Terre Sainte. Certes, il ne s'est pas rendu du Liban directement en Israël, ils sont passés par la Jordanie. Mais il a eu toutes les pressions possibles, notamment celle du Hezbollah. Alors le Hezbollah, on en parle énormément, vous savez, on dit que le Hezbollah, et ce n'est pas totalement faux, est le bras armé des chiites, des Iraniens. Mais le Hezbollah, c'est le Hezbollah qui guerroie en Syrie, qui crée aussi beaucoup de problèmes aux frontières du Liban, évidemment. Mais le Hezbollah, c'est d'accord, c'est une milice, bon, mais il y a aussi des députés et des ministres Hezbollah. Donc vous voyez, c'est très compliqué. On ne peut pas non plus nier le rôle du Hezbollah. Bref, ils sont allés faire je ne sais combien de pressions au patriarcat, le menaçant de je ne sais quelles sanctions. Jamais le patriarche ne s'inclinerait devant de telles menaces. Il y est allé parce qu'il est le pasteur des chrétiens d'Orient. Et je peux vous dire, moi, j'aurais adoré pouvoir faire ce voyage. J'en ai revu les retransmissions. Mais les chrétiens qui n'avaient pas vu un patriarche, ils n'avaient pas vu un patriarche depuis avant la guerre. Bon, et je parle de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, aucun patriarche n'avait osé remettre les pieds en Terre Sainte avec le problème des Palestiniens. Et bien lui, il y est allé. Alors évidemment, quand d'ailleurs le maire israélien a voulu le saluer, il a serré la main du maire israélien. Voilà. Donc ce qu'il veut nous faire comprendre, à nous, Occident chrétiens, c'est que ça c'est très important. Si j'avais pu vous faire passer ce message, simplement celui-là, que les chrétiens d'Orient sont un bouclier qui nous défend contre le radicalisme islamisant. Et comment ? Par l'exemple d'une convivialité islamo-chrétienne qui renforce les valeurs communes. Et par conséquent, l'islam modéré contre le terrorisme. Voilà, tout en n'ignorant rien, il n'ignore rien hein, de la réalité de son époque et d'une humanité sans cœur. D'ailleurs, très souvent, il me disait, Isabelle, la conscience du monde est morte. Voilà. Donc, si vous voulez, le Liban, ce pays message hein, qu'avait très très bien capté Jean-Paul II, il avait dit une chose très belle. Il avait dit « Au Liban, les chrétiens qui y vivent ne relèvent pas d'une expérience de cohabitation avec l'islam, mais d'une réalité de coexistence qui a valeur de modernité et d'espoir dans un monde chaotique. » Si mon livre peut vous permettre de mieux aborder cette grande question qui nous touche, hein, nous aussi, différemment, puisque nous ne sommes pas nés en terre musulmane, ce sont des Arabes chrétiens qui vous parlent. Vous voyez, il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très beau aussi dans le parcours spirituel qu'on avait relevé, c'est que pour toutes les religions de la terre, c'est l'être humain qui cherche Dieu. Et dans la chrétienté, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Nous, c'est une révélation. Et ça, je trouve que, bien sûr, c'est pas moi qui ai inventé cette expression de Karl Jaspers, que Jésus est la crise du monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le christianisme ne peut pas mourir là où il est né. Je vous remercie.
Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence d'Isabelle Dilman, qui a donc fait paraître cet ouvrage aux éditions Albin Michel, Patriarche Béchar Arai, entretien avec Isabelle Dilman, Au cœur du chaos, la résistance d'un chrétien en Orient. Cette conférence a été enregistrée le 30 septembre 2017 à l'abbaye de Belloc.